Méditation du Père Marie-Dominique Philippe sur la métaphysique aujourd'hui, le 3 juillet, lendemain de la Saint-Jeudard.
Qui sont venus pour la session, et puis aussi les sœurs et les frères. Mais c'est premièrement pour vous et pour nous tous. Nous faisons cette session dans un milieu religieux. Le cadre est religieux, la vie du couvent continue. Vous êtes là sans modifier la vie du couvent, en profitant, si vous le voulez, d'être libre. On peut, si on est suffisamment intelligent, c'est une question d'intelligence, hein, bien distinguer le point de vue de la foi chrétienne et le point de vue philosophique. Il y a eu beaucoup de confusion entre les deux, et c'est à cause de ça que souvent il y a des oppositions farouches vis-à-vis de la métaphysique. Parce que les oppositions farouches contre la métaphysique indiquerait qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'intelligence, parce que la métaphysique, c'est l'intelligence qui s'éveille. Elle s'éveille avec la métaphysique. Et refuser la métaphysique, c'est le refus d'être intelligent. Or, c'est pas très intelligent de refuser l'intelligence. Mais on confond, et c'est ce qui arrive constamment dans les vieux pays d'Europe, moins en Amérique. On confond l'intelligence, l'esprit, la vie de l'esprit et le point de vue de la foi. Et constamment, ce sont ces confusions-là qui permettent des positions qui sont des positions fausses, des positions pas très intelligentes, assez bornées. Mais c'est sûr que c'est difficile pour des pays comme les pays de l'Europe de bien distinguer l'apport grec, l'apport de ce qui vient des Sémites, qui vient des Juifs, qui vient de Jérusalem. L'Europe a été de fait, Rome, a été de fait le lieu de rencontre des deux, avec beaucoup de fumée, avec beaucoup de sang. C'était le lieu de rencontre. Rome n'est plus ça maintenant. Mais on a le fruit de ces rencontres malheureuses, quelquefois très belles, mais souvent malheureuses, hélas. Et on est descendant de ces deux grands poussées merveilleuses. C'est sûr, la Grèce a été quelque chose de très beau. L'apport du christianisme a été merveilleux, infiniment niveau grand. Et la rencontre des deux n'a pas été commode, sûrement. Et le problème reste toujours comme ça, hein. Pour nous tous. Il y a un document extrêmement intéressant pour nous, au point de vue chrétien, l'encyclique du Saint-Père Fides et Ratio. C'est très intéressant parce que le Saint-Père ose dire nettement: l'Église n'a pas de philosophie. Ça, c'est très beau de dire ça. Et de le dire aussi nettement. C'est très grand. Parce que on avait essayé de dire philosophie chrétienne. Vous voyez, le mixte. Philosophie, puis chrétienne, la foi. Alors, on fait le mélange. Il y a une théologie. Mais l'Église n'a pas de philosophie. L'Église a une théologie. Et dans cette encyclique, le Saint-Père n'hésite pas de montrer la grandeur de Thomas d'Aquin comme théologien. Et de montrer en même temps que l'Église n'a pas de philosophie. Très facilement, les bons chrétiens considèrent que l'Église a une philosophie, c'est elle qui dit la vérité. Non, pas du tout. La vérité, elle est un bien d'intelligence. Et elle est le bien d'intelligence pour tout homme intelligent doit chercher la vérité. C'est capital, ça. On peut discuter après sur ce que c'est la vérité, ça c'est, on discutera. Mais, au fond, il y a un œcuménisme de l'intelligence humaine, la recherche de la vérité. C'est beaucoup. La recherche de la vérité en philosophie, en théologie. En philosophie, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, actuellement, vu les circonstances actuelles dans lesquelles nous sommes, la recherche de la vérité en philosophie. Aller le plus loin possible et le plus profondément possible, la recherche de la vérité. Et en théologie, la recherche de la vérité à partir de la foi chrétienne. Oui, il y a deux points de départ totalement différents, tout autre. Le point de départ du théologien, le point de départ du philosophe. C'est très très important ça, de bien saisir le point de départ. On part de tel endroit. Et préciser cet endroit dont on part. Est-ce qu'on part sur un endroit virginal, un droit net, ou est-ce qu'on part de l'opinion des hommes, de mon journal, l'opinion des hommes, ce que les hommes pensent, ou du moins croient penser. Savoir, le croyant part de la foi, de la parole de Dieu. C'est pas la même chose. Et de la parole de Dieu telle qu'elle m'est donnée actuellement, à travers la Bible, à travers le, pour ceux qui croient l'islam, à partir des textes qu'ils considèrent sacré, révélé, à travers les traditions religieuses, tous ces courants religieux, et puis le point de vue philosophique. Alors, on est évidemment aujourd'hui dans un tournant. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est déjà depuis un certain temps. Je vais exprès vous donner ce petit texte pour que vous voyez bien ce que je veux dire. On est actuellement dans un tournant de culture et un tournant philosophique. Est-ce que la philosophie a encore un droit de cité ? La philosophie, en prenant la philosophie au grand sens du mot, comme les anciens, une sagesse. La sagesse philosophique, la philosophie sapientiale. Est-ce qu'elle a encore le droit de citer ? Devant ça, je vous donne tout de suite ce texte qui va vous intéresser. En succédant au professeur Jean Bernard, le professeur Jean-Pierre Changeux va présenter le Comité national d'éthique. Et on attaque l'éthique. Le président de la République est sur le point de nommer le professeur Jean-Pierre Changeux, professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Le professeur Changeux remplacera le professeur Jean Bernard qui présidait cet institut depuis sa création le 2 février 1983. De l'humanisme au rationalisme, ainsi pourrait-on symboliser la passation de pouvoir qui intervient à la tête du Comité consultatif national d'éthique, Jean Bernard. Le sage de la République laisse la place à Jean-Pierre Changeux, l'un des plus brillants élèves du professeur Jacques Monod, au spécialiste des maladies du sang, succède le directeur du laboratoire de neurobiologie moléculaire de l'Institut Pasteur. Bon. Jean Bernard était vraiment un humaniste. Il y avait l'homme, et l'homme jouait un rôle très important. Il n'était pas un croyant, il était juif par son origine. Pendant la guerre, il était venu demander au Soulchoir, le couvent des Dominicains, le grand couvent d'études, de le cacher. Et on l'avait caché derrière les meubles, derrière les livres. Il était bibliothécaire. Sous un faux nom, évidemment, il était bibliothécaire. Mais il était avec nous. Et quand j'ai retrouvé, pas mal d'années après, on a tout de suite évoqué ce vieux souvenir de bibliothécaire bien caché derrière les livres. Derrière les livres, mais tant de choses. Quand les gens ne sont pas très intelligents, les livres sont quelque chose de très important, presque le sacré. C'était un homme ouvert à toute recherche et un très grand respect. Changeux n'est pas précisément ouvert à toute recherche. Il est très déterminé comme rationaliste. Voici ce qu'il nous dit. Au-delà de l'effet de surprise, le choix du professeur Changeux par le président de la République risque de provoquer des remous. En effet, s'il est un chercheur qui, par ses prises de position, aussi bien scientifiques que philosophiques ou politiques, n'a jamais laissé personne indifférent, c'est bien lui qui, autant des pages éblouissantes et époustouflantes de son ouvrage le plus connu, L'homme neuronal, posa simplement cette question, désormais, à quoi bon parler d'esprit ? Bon, c'est la chute de l'esprit. Et ce que nous dirions dans notre langage, la chute de l'intelligence comme intelligence. Et la raison scientifique prend la place. On imagine fort bien l'accueil fait par les psychanalystes et adeptes de la métaphysique aux théories du professeur Changeux. C'est peu de dire que sa conception darwinienne du développement et du fonctionnement cérébral n'accorde aucune place limitée, aucune place fort limitée, pour ne pas dire inexistant, à l'inconscient. Donc l'esprit, au fond, comme je dirais, la mémoire de l'esprit, quoi. Tout le patrimoine que nous avons vécu, il y a du conscient et de l'inconscient dans notre vie. Grand pédagogue, homme de passion et de conviction, Jean-Pierre Changeux s'est souvent interrogé sur la notion d'éthique. Depuis Kant, explique-t-il, dans matière à penser, les philosophes ont tendance à séparer éthique et morale pour donner à la première un statut privilégié. La morale porte sur les conduites individuelles. Elle rassemble les prescriptions qui règlent le comportement à un moment donné de l'histoire d'une société. L'éthique, elle a une visée plus générale. Elle est considérée comme une discipline dont l'objet est d'élaborer les fondements des règles de conduite, de construire en quelque sorte une théorie rationnelle du bien et du mal. Partageant la réflexion de Jacques Monod, selon la quête incessante de la vérité, qui est le premier mobile de la science, constitue de facto une éthique. Jean-Pierre Changeux ajoute, tout scientifique qui refuse de succomber au clivage mental confortable du croyant, qui souhaite rester cohérent avec lui-même et s'efforce de rejeter toute référence à la métaphysique, devra tenter, dans sa réflexion, de rechercher les bases naturelles de l'éthique. Ce n'est, en somme toute, que réactualiser la démarche des Lumières et de la Révolution française, avec le bénéfice considérable que peuvent nous procurer les résultats récents des neurosciences, des sciences cognitives et l'anthropologie sociale. En résumé, la science a pour vocation première de pourchasser en permanence l'irrationnel pour atteindre la connaissance objective. La seule connaissance objective sera la science. La métaphysique sera une fuite vers l'imaginaire. C'est très net comme position. Et je dirais, c'est un peu le climat intellectuel et scientifique aujourd'hui. Ça s'est généralisé. On est devant une culture scientifique d'efficacité et on n'est plus devant une culture de recherche de la vérité. La vérité est cloisonnée dans la science et la recherche scientifique. Je crois que ça, c'est le climat général. Et on a quelque chose de parallèle qui est très curieux du côté théologique. Il y a un dernier livre qui vient de paraître qui montre ça parfaitement, que la théologie, avant, se servait d'une métaphysique. Maintenant, elle ne peut plus s'en servir parce que la métaphysique est rayée, elle est rejetée. Alors, c'est l'épistémologie qui va remplacer ça, c'est l'herméneutique qui va remplacer ça, c'est la critique qui va remplacer ça. On aura une théologie qui sera herméneutique, qui partira de la critique du langage, essentiellement. Puisque la théologie part de textes, la Bible, ces textes sont-ils porteurs de vérité, oui ou non ? Ces textes, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour chercher la vérité ? Alors, le croyant, le vrai croyant, à notre époque, doit être celui qui a critiqué ces textes pour s'en servir. Autrement, c'est un croyant naïf. Et c'est tout dire quand on dit que c'est un croyant naïf. Parce qu'il croit encore en la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a été transmise par les hommes. Et comme elle est transmise par les hommes, il faut critiquer ce passage, cette transmission. Et l'herméneutique est là pour essayer de voir ce qu'il y a de juste en cette transmission. Alors, on est devant une théologie nouvelle. Vous voyez, le mal de la métaphysique se répercute en théologie. C'est très intéressant de voir ça. Donc, on n'a pas fait la distinction suffisamment nette entre la philosophie et la théologie. La foi, en elle-même, elle est un don de Dieu et pas un don humain. Elle est un don de Dieu. La révélation, la parole de Dieu, est un don de Dieu. Et donc, elle a son origine, son originalité propre, qui ne dépend pas du savant, qui ne dépend pas de la philosophie. Si on confond les deux, et je comprends qu'on peut confondre les deux, parce que l'homme porte les deux. Je peux être philosophe, je peux être théologien, je peux être savant, je peux être chrétien. Je porte les deux. Vous savez bien, les accidents peuvent arriver sur le terrain d'atterrissage. Le terrain d'atterrissage des avions qui adhèrent tous, qui atterrissent tous au même bord. L'un volait très bas, l'autre volait très haut. Quand j'étais dans le vol, il n'y avait pas de danger. Toujours très amusant, quand on est en avion suffisamment haut, de regarder le petit avion dans le bas, qui circule évidemment beaucoup moins vite, et qu'on voit dans le bas. Il n'y a pas de danger de se rencontrer. Il y a des kilomètres qui nous séparent. Mais tous les deux vont atterrir au même endroit. Terre, l'avion qui était très élevé, l'avion qui était beaucoup moins élevé, tous les deux atterriront à terre. Le point de contact avec la terre sera le même pour les deux. Et s'il se confond, ce sera catastrophique. Tandis que quand il volait bien, il n'y avait pas de danger. Il y a un signe de fatigue, hein, quand on ne voit que l'atterrissage. L'atterrissage est un moyen, c'est un moyen. On ne monte pas en avion pour atterrir. Je crois, chaque fois que vous êtes monté en avion, oui, c'était la ville que vous vouliez atterrir, mais ce n'est pas l'atterrissage. Pendant toute la conduite de l'avion, vous n'avez plus pensé à l'atterrissage. On atterrit un moment. L'atterrissage est important. C'est intéressant de voir comment un homme croyant est un homme scientifique. Comment un homme scientifique peut être un philosophe. Comment le philosophe peut être un croyant. L'atterrissage, c'est l'homme. Et le point d'atterrissage est plus ou moins vaste. Il n'y en a qu'un point d'atterrissage très petit. Il n'y en a qu'un très vaste, très vaste. Ce point d'atterrissage est de plus en plus vaste. Le philosophe doit tout regarder. Et l'atterrissage du scientifique qui étudie telle science particulière. Le point d'atterrissage du croyant qui atterrit autrement que lui. Songez à ça, parce que c'est une comparaison qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est l'herméneutique. Point d'atterrissage, point de contact entre le savant et le croyant, le théologien. Donc, première difficulté de notre monde d'aujourd'hui, c'est que nous vivons un monde scientifique. L'Europe, les États-Unis. Et un monde scientifique qui se communique constamment et qui avance avec des points très particuliers, parce que plus la science se spécialise, plus elle devient particulière et plus les sciences se multiplient. Le nombre des sciences est énorme aujourd'hui. C'est un monde gigantesque. Que devient la philosophie dans ce monde? Il y a une position du positivisme. La science connaît tout. Rien n'échappe à la science. Si rien n'échappe à la science, tout ce qui prétendrait connaître l'esprit, qui selon le savant n'existe pas, du moins selon certains savants, pas par la science ne fait pas ça, hein. C'est l'homme savant qui est positiviste. La science n'est pas positiviste, c'est l'homme qui est positiviste, parce qu'il regarde les conclusions scientifiques comme les seules connaissances. C'est très important de se rappeler ça. C'est l'homme qui a besoin d'absolu. S'il en rejette un, il y en a un autre qui pousse. Il rejette l'absolu de la métaphysique, il rejette l'absolu du dogme, il y en a un autre qui pousse, l'absolu de la science, de la conclusion scientifique. Il y a quelqu'un le droit de nous dire, l'absolu de la critique. Il y a tel que le droit uniquement de vivre. C'est intéressant de voir que chaque fois qu'il y a le rejet d'un certain absolu, un autre absolu naît tout de suite en rejetant les autres. Oui. C'est quelque chose de très curieux. Parce que la science, elle est bonne, elle est excellente. Quel usage vous allez en faire? C'est ça qui est important au point de vue pratique. Quel usage? Est-ce que la science, on peut la chercher pour elle-même ou est-ce qu'on la recherche toujours pour l'homme? Je me souviens de cette parole de Paul VI adressée à la société, un certain groupe de savants. Le Saint-Père a affirmé: toute science est pour l'homme. Il a bien distingué la science qui est une connaissance relative, qui progresse, qui grandit, pour l'homme. C'est la fin. La science est pour que l'homme soit plus intelligent. La science est pour que l'homme ait des résultats meilleurs dans tel domaine. La science est pour l'homme. C'est l'homme. L'homme, elle est pour l'homme. La philosophie, elle est sagesse. Est-elle pour l'homme? Elle aussi. Oui. Elle montre ce que l'homme peut faire et doit faire. Si elle existe comme philosophie, elle vient de l'homme et elle est pour l'homme. C'est une petite distinction qui est très importante à faire, ça. Connaissance philosophique, connaissance scientifique, sont toutes les deux relatives à l'homme. Et je crois que ça, on peut facilement l'accepter. Et que je crois qu'en dehors du positivisme, qui est une position humaine, qui n'est pas une position scientifique, je ne peux pas justifier scientifiquement ma position de positiviste. Qui est une position humaine. L'absolu, la finalité, n'est pas dans la connaissance scientifique, elle n'est pas dans la connaissance philosophique, elle est dans l'homme. Ou au-dessus de l'homme, en Dieu. Mais elle n'est pas dans la science. C'est très important de dire ça dès le point de départ. Parce que si la connaissance scientifique est pour l'homme, si la connaissance philosophique est pour l'homme, ah, il y a une possibilité de se rencontrer. Il y a une possibilité de les unir, puisque toutes les deux ont la même finalité. C'est l'homme. L'homme, c'est pas le savant. Le savant est un homme, mais l'homme est plus que le savant. La philosophie, ah, elle est déjà plus près de l'homme, mais ce n'est pas l'homme. Elle est pour l'homme. Elle est en vue de l'homme. Je crois que nous pouvons tout de suite accepter ça. Et c'est à partir de là qu'on peut discuter. Parce que je n'oppose plus science et philosophie. Si j'oppose science et philosophie à une opposition entre les deux, il faut qu'il y ait quelque chose de commun entre les deux. Elles sont diverses. Elles ne se rencontrent pas. Elles se rencontrent dans l'homme. C'est donc l'homme qui doit lui-même juger les deux. Qu'est-ce que la philosophie me donne à l'homme? Qu'est-ce que la science me donne à l'homme? Ceci, c'est pour tout de suite nous rappeler que le climat positiviste, scientifique, provient d'une conception de l'homme et non pas de la science. Donc, au nom même de la science, je dirais, le positivisme n'est pas une position scientifique. C'est l'homme qui veut faire du positivisme un absolu. C'est l'homme qui, étant croyant, a telle ou telle conception de la foi. la foi vient de Dieu ou la foi provient du milieu dans lequel je suis. Je suis né dans une famille chrétienne, je suis élevé dans un collège chrétien, j'ai ma première éducation. Est-ce que ma foi est relative à ma famille? Est-ce que ma foi est relative à mon milieu? Est-ce que la foi est relative après, aux grandes écoles, et ainsi de suite, relative à la politique? Ou est-ce que la foi vient de Dieu? C'est important de comprendre que la foi vient de Dieu et que la philosophie, c'est l'œuvre de l'homme intelligent, comme la science est l'œuvre de l'homme intelligent. Mais il y aura deux types d'intelligence. Ah, voilà quelque chose de curieux et d'intéressant. Ce que les anciens manifestaient toujours, le premier qui a voulu unir les deux, ne pouvait plus distinguer philosophie et science. Il y a de fait, dans l'esprit de l'homme, une dimension spéciale pour l'intelligence et la raison. La raison, c'est la manière pour l'homme d'être intelligent. L'intelligence, c'est la manière dont l'homme dépasse la raison. Et on verra ça très bien et très vite chez l'artiste. L'artiste est intelligent, mais l'artiste sait très bien que son intelligence n'est pas toujours rationnelle. L'artiste sait très bien que constamment, il sera en rupture de ban vis-à-vis du savant. Il dira au savant, mon art est plus intelligent que vos conclusions scientifiques. Et le savant répondra, c'est autre chose. Et c'est vrai, c'est autre chose. C'est un autre type d'intelligence. Donc, l'esprit se développe différemment. Il se développe selon la raison scientifique. Il se développe selon l'intelligence philosophique. Il y a des développements différents. Et par là, je montre que le terrain d'atterrissage qui est l'homme, ce terrain d'atterrissage qui est l'homme, a des quartiers différents. C'est toujours très intéressant de visiter un port d'aviation. On voit très bien où les avions doivent atterrir. Et quand ils atterrissent constamment, on voit que c'est très important. Autrement, il y aurait des massacres tous les jours, il y aurait des conflits tous les jours. Mon intelligence se développe différemment. Quand je dis que quelqu'un est intelligent, je dois tout de suite préciser. C'est un savant remarquable. C'est un génie scientifique. C'est un mathématicien. Oh, merveilleux. C'est un philosophe étonnant. C'est un artiste. Oh, merveille. Il a une originalité, une puissance en son art extraordinaire. Et ainsi de suite. Et je dirais encore, c'est un homme qui est merveilleux dans l'ordre de la prudence. Très prudent. C'est très différent de l'art. C'est encore être intelligent. C'est vrai, l'intelligence de la prudence est quelque chose de très particulier. Et on met longtemps à l'acquérir. L'intelligence artistique est tout à fait différente. L'intelligence philosophique, autrement. Vous voyez, le terrain d'atterrissage, l'homme est complexe. Il y a une complexité merveilleuse en lui. Son intelligence peut s'allier à son imagination. Son intelligence peut être rationnelle, critique, réfléchissant sur elle-même. Son intelligence peut être liée à la volonté, l'efficacité, le rendement. Son intelligence peut être liée à l'affectivité, une intelligence amoureuse. Intelligence dans l'ordre de l'intelligence de l'amour, ainsi de suite. Il y a diverses manières d'être intelligent. Au fond, le positivisme d'un Jean-Pierre chanceux, c'est une intelligence qui reste fixée aux découvertes biologiques, aux découvertes scientifiques, c'est-à-dire les neurones, et qui voit tout en fonction de ça. Et l'artiste, en face de ça, dit « c'est très bien ça, c'est très bien, mais si vous êtes incapable de faire quelque chose, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que vous faites. Si vous construisez une magnifique salle comme architecte, c'est intéressant. Tout le monde pouvait faire ça, attends, il fallait un artiste. Si vous regardez un Rembrandt, il y a une intelligence. Quand il donne son portrait, on voit tout de suite un homme intelligent. C'est très important à notre époque de comprendre ces modalités diverses d'intelligence. Je crois que c'est la première réponse qu'on doit donner à ce que représente celui qui veut mettre l'absolu dans la science, suppression de la métaphysique. Quand quelqu'un dit « je veux supprimer la métaphysique », j'aurais envie de lui dire, vous ne savez pas ce que c'est. Il la supprime parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Alors, supprimer quelque chose parce qu'on ne sait pas ce que c'est pas intelligent. On peut supprimer des erreurs, mais on n'a pas le droit de supprimer quelque chose d'intelligent. Après tout, la science est né de la philosophie. C'est intéressant de voir ça. S'il n'y avait pas eu la philosophie, il n'y aurait pas eu la science. Il n'y a pas eu de génération spontanée. La science, elle est née de la philosophie. C'est parce qu'on a cherché la vérité. On s'est dit, oh, la vérité, il y a peut-être d'autres vérités. Et on a abouti petit à petit à certaines expériences, et certaines expériences donnent la vérité. Donc la science est née de la philosophie. Si la science est née de la philosophie, on a le suicide du fils qui tue le père. C'est ennuyeux ça, en supprimant la métaphysique. On a ce suicide parce que la philosophie, elle a été grande en fonction de la métaphysique. Et donc, si la philosophie a été grande en fonction de la métaphysique, tuer la métaphysique, rejeter la métaphysique au nom de la science, c'est celui qui est né de la philosophie, qui a grandi, qui a pris son indépendance, qui a voulu vivre sans ce qui était à l'origine. S'il n'y a plus celui qui était à l'origine, la science va perdre le sens de sa finalité. Et c'est ce que m'a avoué il n'y a pas si longtemps quelqu'un de grand dans la science biologique. Il a dit, les jeunes s'intéressent beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors j'ai dit, c'est peut-être la recherche de la vérité qui disparaît. Alors il m'a regardé, il m'a dit, ah, mais oui, c'est peut-être la recherche de la vérité. Alors comment la donner ? Il faut redonner l'esprit scientifique, l'esprit philosophique. Ah, vous croyez ? Mais oui. La recherche de la vérité est première. Elle est enracinée dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans son intelligence. Si vous supprimez ça, vous allez supprimer la recherche de la vérité pour elle-même. Alors, on va voir le troisième moment, la suppression de la métaphysique, la suppression de la philosophie, va faire que la science elle-même va s'arrêter. Elle n'aura plus le souffle suffisant pour mettre la vie de l'homme au service de la recherche de la vérité. La recherche de la vérité est première. Elle est quelque chose de fondamental. Elle éveille l'esprit vers quelque chose de grand. Vous voyez donc que cette position de supprimer la métaphysique, de supprimer la philosophie, parce que la finalité de la philosophie, c'est la métaphysique, c'est qu'elle est sagesse, fait que tôt ou tard, on supprime la recherche de la vérité. Et supprimant la recherche de la vérité, on supprimera aussi l'amour de la science. On aimera la science qu'en raison de ses résultats, de son efficacité. Une science qui n'est plus efficace sera rejetée. Or, la science est premièrement une connaissance avant d'être l'efficacité. Elle n'est efficacité qu'en raison de la connaissance. Et on est en train de bloquer connaissance et efficacité. Restez là où vous êtes, parce que le père Marie-Dominique Coutière va vous donner des renseignements pratiques. Comment on structure ces quelques jours qu'on passe ensemble. Alors, pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il y en est. Alors, restez là où vous êtes. Je disparais, puis je demande au père Marie-Dominique de parler.